Radio Kapi. Oh,
Kapi. Grâce à Mzati Masanzi pour le journal.
La table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu de l'Ituri débute ce lundi ici à Kinshasa. À cet effet, la société civile de la ville de Goma demande aux participants de décider pour la sécurité des populations et non pour les intérêts politiques. Le gouvernement congolais annonce le déploiement très bientôt des inspecteurs de l'économie sur le terrain pour effectuer le contrôle des prix sur le marché. Abbé Justin Kunzi, le directeur de la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Bukavu, est invité de ce journal. Il nous parle des flashs spéciaux que vient de publier la CDJP. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'aller plus loin, sachez qu'en sport, les Léopards, seniors, messieurs, basketball de la RDC ne vont pas prendre part au tournoi des pré-qualifications olympiques prévues à Lagos au Nigeria. Le manque de soutien financier de la part du gouvernement est à la base de ces grands rendez-vous manqués pour le pays. Je le disais tantôt, table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu de l'Ituri. Elle démarre ce lundi 14 août ici à Kinshasa pour se clôturer le mercredi. Selon le porte-parole du gouvernement, cette table ronde voulue par le président Félix Tshisekedi intervient après les travaux tenus du lundi 19 au vendredi 23 à juin 2023, lesquels ont permis d'identifier les participants ainsi que les thématiques à aborder. Les recommandations qui seront dégagées seront soumises au chef de l'État pour disposer quant à l'avenir de cette décision, précise le ministre Patrick Muyaya. La société civile de la ville de Goma salue la convocation de la table ronde tout en dressant un bilan mitigé de ces régimes d'exception mis en place pour amener la paix dans ces deux provinces. Le président de cette structure veut voir les participants à ces assises décider pour la sécurité des populations et non pour les intérêts politiques. Écoutez Marion Gavo dans ses propos recueillis par Bernard Denyangi.
La tenue de la table ronde sur l'état de siège, c'est un événement qui est tant attendu pour voir comment décider sur la future gestion de l'Est de la RDC, envie d'avoir la paix, la sécurité et le développement. En effet, pendant la période de l'état de siège, il y a eu la diminution des conflits tribaux en province du Nord Kivu. On a assisté à une maximisation de recettes sur une population appauvrie, meurtrie, mais également l'insécurité, les tueries, les déplacements massifs des populations, les tracasseries grandissantes, l'activisme et l'occupation d'entités par des rebelles terroristes d'IM23 et ADF et le groupe d'autodéfense Mai Mai. La société civile pense que la table ronde puisse mettre fin à l'état de siège, qu'on puisse diligenter un audit spécial sur la gestion de la province pendant l'état de siège et que la circulation commence normalement en province du Nord Kivu et à province de l'Ituri.
Réagissant à l'annonce de la tenue de cette table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu de l'Ituri, le député national Bertrand Mubozi, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, parle de leurs attentes au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous souhaiterions que toute décision et toute option qui sera levée à l'issue de cette table ronde, que ça puisse être fait de manière à ce que nous puissions nous rassurer que nos populations de l'Est, et plus particulièrement celles du Nord Kivu et de l'Ituri, vont enfin vivre dans la paix et la sécurité. Et donc il faudrait que nous orientons toutes nos réflexions dans le sens de nous rassurer que sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan de la gestion et l'administration même de ces deux provinces, nous pouvons nous rassurer que les deux vont concourir à cet objectif visé par le président de la République et par nous tous, voir enfin la population de cette partie de la République vivre dans la paix et dans la sécurité.
Dans le même chapitre, l'avenir de l'état des sièges entre maintien, levée et requalification. C'est le thème de la conférence débat organisée samedi au Collège Boboto ici à Kinshasa par Paul Institute, l'Institut interculturel dans la région des Grands Lacs, en collaboration avec l'Université de Goma. Les résultats de la recherche menée sur les perceptions qu'ont les populations locales sur l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri étaient au centre du débat lors de ces rendez-vous. Merveille Hassani a couvert cette activité pour Radio Kapi et nous en parle dans ce reportage.
Selon les organisateurs de cette conférence de bas, la population de l'Est de la République démocratique du Congo, pourtant très désireuse de la paix, rejette la poursuite de l'état de siège étant donné qu'elle est inefficace. S'appuyant sur les recherches menées, David Kalenda, directeur de la radio Pôle FM à Goma, donne la perception des Nord-Kivusiens sur cette mesure.
C'est une mesure qui devait durer 30 jours renouvelable. Mais le fait que cela a été renouvelé plusieurs fois et on est au-delà de 2 ans, aujourd'hui la perception de la population par rapport à l'état de siège a changé. Les populations attendaient qu'il y ait la disparition des groupes armés, la paix et la sécurité sur toute l'étendue de ces deux provinces.
Pour le professeur Jean-Chrétien Ekambo, l'état de siège seul ne suffit pas dans les deux provinces.
Parce que si nous résolvons le problème de l'état de siège, rien que parce qu'il y a eu insécurité au Nord Kivu et en Ituri, c'est pas suffisant. Étant un pays ayant des richesses qui sont convoitées, nous devons toujours nous préparer à une culture de défense par rapport à ceux qui ne veulent pas traiter de manière amicale avec notre état.
Acteur politique, Patrick Bala, pense quant à lui que pour obtenir les résultats escomptés, il faut passer de l'état de siège à l'état d'urgence.
Merci à vous, Merveille Hassani, pour toutes ces précisions. Entre-temps, dans la province de l'Ituri, la force de la MONUSCO, en collaboration avec les FARDC et la police nationale congolaise, salue le retour depuis la semaine dernière de plus de 8000 déplacés dans plusieurs villages sur les axes Bunia, Komanda, Bunia, Tchabi et Komanda Luna. Le lieutenant-colonel Kevin Biabato, porte-parole de la force de la MONUSCO, explique au micro de Rosalie Zawadi.
La force de la MONUSCO a beaucoup de responsabilités, assurer la protection des civils. Et c'est dans ce cadre que la force de la MONUSCO a travaillé pour aider les déplacés à regagner leur milieu d'origine qu'ils ont abandonné à cause de la guerre et des tracasseries. Par exemple, le 4 août, la force de la MONUSCO, en collaboration avec l'armée congolaise et la police, a aidé les déplacés à regagner leur village dans la zone d'Irumu. Au total, 8870 déplacés ont manifesté la volonté de regagner leur village pour reprendre leur vie normale. Ainsi, les déplacés sont retournés dans leur village sur les axes Bunia Komanda, Bunia Tchabi et Komanda Luna. Ces déplacés ont été accompagnés par la police. Ce sont là de bonnes nouvelles pour la population ainsi que pour tous ceux qui s'occupent des déplacés. S'assurer que ces déplacés regagnent leur village et reprennent leur vie normale.
Je l'ai dit dans les titres, le gouvernement par les biais du ministère de l'économie annonce le déploiement très bientôt des inspecteurs de l'économie sur le terrain pour un contrôle dont l'objectif est d'assurer le contrôle des structures, des prix et décourager la pratique des prix illicites. Selon le gouvernement, je les cite, il est paradoxal qu'après une baisse du taux d'échange suivie d'une stabilité relative de la monnaie nationale, que les prix sur le marché ne suivent pas à cette tendance baissière, fin des citations. Le gouvernement rassure que toutes les mesures seront prises pour que ces contrôles s'effacent sans aucune tracasserie de la part des inspecteurs. Suivez cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres fait par le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement. Extrait proposé par Pele Kipelamondo.
Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a rassuré le Conseil qu'il s'emploie, dans le cadre de ses prérogatives et dans le respect des dispositions légales pertinentes, à mettre en œuvre les activités liées au contrôle et à la surveillance des marchés. En effet, après examen et adoption de la question lors de plusieurs conseils de ministres et faisant suite aux orientations claires du premier ministre données au cours de la réunion du comité des conjonctures, les inspecteurs de l'économie nationale seront déployés pour assurer les contrôles des structures de et décourager la pratique des prix illicites, coûteuses tant pour l'État que pour les consommateurs. Tout sera mis en œuvre pour que cette activité importante pour la sécurisation du pouvoir d'achat ne soit pas accompagnée d'une quelconque forme de tracasserie ou d'abus. Des dispositions ont déjà été prises pour sanctionner de manière exemplaire les inspecteurs qui se rendront coupables des tracasseries, a-t-il précisé. Dans ce cadre, il a informé le Conseil de la série de réunions qu'il a entamées avec les opérateurs économiques des secteurs des télécoms, de la distribution des produits pétroliers et des grands distributeurs de produits alimentaires et brassicoles. Il a insisté sur l'impérieuse nécessité de pratiquer le taux interbancaire qui devra naturellement conduire à une baisse conséquente des prix de produits sur le marché.
Je pense que le gouvernement essaie de faire quelque chose qui est totalement contradictoire à l'option politique et économique de notre pays, qui est l'option du libre-échange, réagit Alki Tengue, analyste économique. Selon lui, cela sous-entend que le gouvernement rentre dans un système où il contrôle si effectivement les acteurs du système économique et commercial jouent selon les règles. Il explique au micro de Jocelyne Moussaoupoundé.
À partir du moment où les prix montent et qu'en même temps le taux de change se dégrade en défaveur du franc congolais, le gouvernement dit « je comprends ». À partir du moment où un certain nombre de batteries sont mises en place pour que le taux de change soit favorable au franc congolais et que la parité est en faveur du franc congolais, le gouvernement s'attend naturellement à ce que les prix baissent. Seulement, pour que les prix augmentent, ça va très vite et les commerçants anticipent. Ils montent plus haut que le taux de change pour prendre des précautions parce qu'ils ne savent pas à quel prix ils vont devoir acheter le prochain stock. Maintenant, quand les prix baissent, ils se posent la question de savoir pendant combien de temps le taux va baisser et va rester stable. Et est-ce que nous pouvons nous approvisionner au prix du nouveau taux? Si la réponse est oui de manière durable, alors seulement les prix pourront baisser. Aujourd'hui, je crois que ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de forcer la baisse du prix pour que cela soit de manière volontaire, conforme au taux de change. Ça peut marcher, pourvu qu'on ait un contrôle sur les approvisionnements. En ce moment-là, les gens auront la confiance de dire « si je vends à ce prix et que je gagne de l'argent en francs congolais, lorsque je vais me réapprovisionner, parce que très malheureusement, la plupart des marchandises dont on parle ici sont des marchandises importées, il sera question d'avoir une capacité de réapprovisionnement. »
Par ailleurs, comment lutter contre la faim dans la province du Kassai Oriental? Cette question était au centre des discussions samedi entre les gouverneurs intérimaires, les membres du cadre des concertations de la société civile ainsi que les responsables des confessions religieuses. La rencontre était initiée par les gouverneurs ad intérim à quelques semaines du début de la saison culturelle A. Nous en parlons avec vous, Esther Ndalafina.
Au cours de cette rencontre de près de 3 heures, les participants ont fait quelques propositions à court terme, à moyen et à long terme. Abbé Pierre Kabamba, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile.
On a dit qu'il faut vraiment une bonne politique agricole. L'État peut aussi appuyer certains individus qui sont déjà dans les grands champs et il y a moyen aussi d'organiser les paysans et les accompagner par certains agronomes comme on l'a fait dans les temps avec les moniteurs.
Le pasteur Anaclé Kabalobouko les représentant légal de la 30e communauté pentecôtiste, un opérateur agricole renommé dans la région propose ce qui suit.
Si le gouvernement national peut lui doter de moyens, d'ici janvier, on parlera plus de la crise de maïs. C'est-à-dire qu'il fallait voir les responsables de territoire, les chefs de groupement et de localité, et à leur tour, ils vont sensibiliser la population. À chaque maison, appuyer les opérateurs agricoles, payage pour les produits alimentaires. Est-ce qu'on peut penser pouvoir quelle mesure d'une exemption?
Signalons que cette rencontre intervient pendant que la mesurette de maïs a tendance à augmenter de prix sur le marché de la ville. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle, l'objectif du constituant relatif à la participation politique paritaire homme-femme est loin d'être une priorité pour les partis et regroupements politiques congolais. L'ONG CREDA, Centre de recherche et d'études sur l'état des droits en Afrique, s'indigne ainsi après la publication par la CENI de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables aux élections législatives du 20 décembre prochain. C'était vendredi 11 août au siège de la commission électorale ici à Kinshasa. En effet, cette organisation fait remarquer qu'en dépit de toutes les mesures incitatives en faveur des candidatures féminines, il se dégage que sur le 23 653 candidatures déclarées recevables, seules 3 955, soit 17%, sont féminines. Autre renseignement relevé par cette ONG avec vous, Pelekipe Lamondo.
L'ONG CREDA note que sur les 66 partis et regroupements politiques repris en annexe 1, 10 partis et 56 regroupements politiques ont atteint les seuils de recevabilité. Par contre, 36 partis et 15 regroupements politiques n'ont pas atteint ces seuils. Au regard de ces chiffres, les seuils de recevabilité semblent avoir atteint son objectif, celui de favoriser la formation des grands ensembles politiques et d'éviter l'émiettement de votes. Cependant, fait remarquer cette organisation, les seuils de recevabilité privent 36 partis et 15 regroupements politiques politique du droit de concourir aux élections. Par ailleurs, CREDA relève que 6 regroupements et 4 partis politiques ont été déclarés comme ayant atteint les seuils de recevabilité alors qu'ils n'ont pas présenté le nombre de candidats requis, soit au moins 300. En vertu de l'article 22 alinéa 2 de la loi électorale, ces 6 regroupements et 4 partis politiques n'ont pas atteint les seuils de recevabilité. Pour l'ONG, la justification de la CENI selon laquelle les regroupements politiques NOP H2023, RDC et AAAD seraient capables d'atteindre les seuils de recevabilité si l'on prenait en compte les 16 sièges réservés aux 3 circonscriptions électorales en proie à l'insécurité, à savoir Kwamout, Rutshuru et Masisi, ne tient pas dans la mesure où elle est contraire à la loi, la plénière de la CENI ne disposant pas d'une compétence discrétionnaire de déroger à la loi.
Pelé qui paie la Mondo sur la fréquence de la paix. L'ONG CREDA recommande par conséquent à la CENI de rectifier les erreurs matérielles contenues dans sa décision en y retirant tous les partis et regroupements politiques n'ayant pas atteint les seuils de recevabilité et de se conformer strictement aux prescrits de la loi. À la Cour constitutionnelle de faire respecter la loi électorale au cas où elle venait à être saisie dans ce cadre de contentieux de candidature.
Actualité internationale.
Les auteurs du coup d'État au Niger annoncent dimanche 13 août, dans la soirée, leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Le gouvernement nigérien réunit à ces jours les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger, déclare le colonel-major Amadou Abraman, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale.
L'invité.
Il s'agit du directeur de la commission diocésaine justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu, l'abbé Justin Kunzi, revient sur les flashs spéciaux que la CDJP vient de publier, notamment sur les corrélations entre le vent du changement qui souffle sur les continents africains et les réalités de ce qui se passe dans la partie est de la RDC. Il sensibilise aussi le peuple congolais à voter utile lors des élections prochaines afin d'éviter des jérémiades après le processus électoral. L'abbé Justin Kunzi s'entretient ici avec Jean Kassami.
Monsieur l'abbé Justin Kunzi, bonjour.
Bonjour.
Les CDJP que vous dirigez viennent de sortir 4 flashs spéciaux. Le premier, les cravates qui tremblent. Le second, le peuple a des dirigeants qu'il mérite. Le troisième flash, ces embouteillages qui durent. Et enfin, le quatrième flash, ils viennent, ils sont là. Tous ces 4 flashs réunis veulent parler de quoi?
Ce sont des flashs qui ont un caractère essentiellement pédagogique. Un caractère de formation et d'information, un caractère d'éveil de conscience et de sensibilisation sur la situation socio-politique que nous vivons en général chez nous au Congo et en particulier ici chez nous à Bukavu.
Alors nous y allons au cas par cas. Dans le premier flash, quand les cravates tremblent, parlez-en.
Nous sommes ici dans le nord du Sahel, principalement. Nous voyons un mouvement dirigé par des jeunes, des militaires qui veulent renverser des pouvoirs légalement établis. Et quand ces jeunes s'expriment, vous sentez en eux une certaine frustration. On dirait qu'ils veulent un changement. Nous ici, à l'est du pays, au Congo, ces jeunes partagent les réalités de quelques jeunes d'ici. Alors nous nous posons la question de savoir si c'est la démocratie qui est attaquée ou une forme de démocratie qui est attaquée. Nous nous posons la question de savoir si la voie des armes est le seul langage adapté pour s'exprimer et manifester ses frustrations. Voilà pourquoi nous avons écrit ce flash, pour partager une réflexion et une inquiétude, peut-être aussi partager un optimisme de ces jeunes-là. Mais cet optimisme de ces jeunes fait trembler effectivement certaines cravates, au nord comme au sud, parce que apparemment ces jeunes dénoncent une certaine arrogance basé sur un pillage des ressources naturelles qui ne profite pas à eux, mais qui profite à d'autres métropoles. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que ces jeunes renversent ce mouvement sans beaucoup d'effusion de sang, et la rue les accompagne. Ça signifie que tout le monde doit être quand même attentif à ce qu'ils font.
La démocratie, c'est l'une des formes d'expression populaire. La RDC chemine doucement vers le mois victoire pour les élections. Le peuple a des dirigeants qu'il mérite et qui est encore CDJP dans son flash. Vous voulez exprimer quoi, vous, CDJP, à travers ce flash?
Nous voulons dire à la population de cesser de gémir et de prendre conscience qu'il n'y a pas un acharnement thérapeutique contre un cadavre qui a décidé de mourir. Les dirigeants que nous allons élire à tous les niveaux, depuis la commune jusqu'au niveau national, c'est notre voix qui leur donne l'accès dans les structures étatiques. Alors, ces dirigeants, une fois élus démocratiquement, nous ne pouvons plus continuer à dire qu'ils ne les méritent pas. Quand vous trouvez quelqu'un qui est candidat au niveau provincial, candidat au niveau national, candidat même peut-être sénateur, et qui aligne ses enfants, aligne ses petits-fils, aligne ses amis, et tout le monde les vote, et à la fin on se lamente. Mais de quoi se lamentons? Quand vous trouvez un candidat qui n'a jamais organisé de primaire dans son parti politique, il est là depuis 12, 20, 30, 40 ans, seul. On connaît son parcours, mais les gens le votent à cause d'un pagne, à cause d'une pacotille. Mais demain, de quoi se lamentons? Quand vous avez des dirigeants qui ne connaissent même pas la langue de leurs électeurs, qui n'ont pas un endroit où dormir dans les villages où ils réclament des voix, mais quand même vous trouvez des gens qui se trémoussent derrière eux toute la journée. Mais est-ce la faute à eux? Un grand politicien français disait que les promesses n'engagent que ceux qui l'exécutent. Parce que ceux qui font des promesses, c'est une stratégie de communication. Mais si vous écoutez toutes les promesses et vous y croyez, la faute est à qui? Nous tous, nous pouvons nous tromper et nous tous, nous pouvons rentrer à la raison. Voilà, merci.
Monsieur l'abbé Justin Kunzi, directeur de la CDJP de l'archidiocèse de Bukavu, nous vous disons merci.
Fidèles auditeurs, par ici nous mettons un terme à ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo et mis en onde par Pierre Diassinois. Vous pouvez les réécouter sur www.radiocapi.net. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur la fréquence de la paix en compagnie de Christelle Fritimangwa.